Chers auditeurs, aujourd'hui je suis avec Michel Delpech en livre, dans son livre qui s'appelle « Vivre » et je vais vous parler de ça. Alors donc c'est Michel Delpech, « Vivre », un livre plein de force, éblouissant et de franchise. Il dit ceci en page de couverture. Il y a 3 mois, j'ai guéri. J'avais très envie de retrouver la scène. Il y a 2 mois, la douleur s'est réveillée. Je me suis tirée par l'oreille pour aller consulter. Je n'avais pas envie. Il y a 1 mois, je suis retournée à l'hôpital. En fait, je n'avais pas guéri. Ce n'est pas très original quand on a un cancer. Mais bon, ce n'est pas une raison pour se flinguer. Il vaut mieux même éviter de le faire si on a envie de guérir. En février 2013, alors qu'il achevait la rédaction de son coming out religieux, où il se dévoilait chrétien passionné de théologie, Michel Delpech apprenait l'impensable. Lui, le chanteur à la voix d'or, était atteint d'un cancer de la langue. Du jour au lendemain, sa vie en a été bouleversée. Il reprend aujourd'hui la plume pour raconter son chemin face à la maladie. Il lève le voile sur l'après, car ce cancer l'a transformé. Lui qui, admet-il, n'avait jamais été un joyeux drill, redécouvre la beauté de la vie. L'amour, les petits plaisirs, l'écoute de soi sont ses nouvelles armes. Un témoignage éblouissant de force et de franchise. Il y a 3 mois, j'ai guéri. Je l'ai annoncé à ma famille, à mes amis et même à des journalistes qui me demandaient si je remonterais bientôt sur scène. Je l'ai dit avec assurance en direct à la télévision, au journal de 20h, où j'avais été invitée. J'en étais convaincue et fort soulagée. Il me restait quelques soucis de voix, à vrai dire de gros soucis quand on est chanteur et que l'on a très envie de retrouver le public. Mais qu'importe, j'avais guéri. Il y a 2 mois, la douleur s'est réveillée au fond de la gorge. Il y a 1 mois, je suis retournée à l'hôpital. J'ai eu la chance, hormis cette maladie, d'avoir une bonne condition physique. Je n'ai pas eu besoin d'entretenir la machine trop scrupuleusement. J'ai vécu en mangeant ce que j'avais envie de manger, en fumant, en ne faisant pas de sport. J'aimais bien me faire plaisir. J'ai arrêté de fumer quand le cancer s'est déclaré. Je me suis alors souvenue que j'avais un corps dont je ne m'étais sans doute pas assez occupée. J'avais oublié de le choyer. En Orient, le corps est important. C'est à travers lui qu'on peut travailler sur l'esprit. Je suis un peu trop cérébrale, à la mode occidentale. Je n'ai pas su écouter ce corps. Désormais, il occupe tout mon temps. J'ai décidé de prendre les choses comme elles viennent. À ce stade, je n'ai pas trop le choix. Je passe Noël à l'hôpital. Ce n'est pas une situation idéale. Mais je ne me laisserai pas traumatiser par cet incident de parcours. Après tout, je vis une aventure, et même si elle n'est pas très drôle, même si j'en ai connu de plus fabuleuses, j'essaye quand même d'y trouver des trucs sympas. Il y en a toujours, il suffit d'ouvrir les yeux. Évidemment, tout est relatif, mais cela fait 2 semaines qu'à force de chercher des petits bonheurs, j'ai fini par trouver des moments formidables. Ici, dans cette minuscule chambre où tout le monde est aux petits soins pour moi, le personnel soignant, même aussi mes proches, mes amis, que je n'avais jamais autant vus. J'ai peut-être tendance à abuser, par exemple, de cette petite sonnette à portée de ma main. J'avoue, j'appelle parfois pour pas grand-chose, pour voir la porte de la chambre s'ouvrir, un sourire surgir dans l'entrebâillement. J'appelle sans doute pour me rassurer. Je suis beaucoup plus performant face aux grandes épreuves. Ce n'est pas pour autant que je les souhaite. je m'en passerai bien, mais quand elles sont là, il faut y aller. Il n'y a pas d'alternative. Et si je donne alors une impression d'optimisme, c'est parce qu'à force de me concentrer sur cette épreuve, sur l'épreuve, j'occupe ce qui pourrit le quotidien. Les vraies épreuves, elles ne pourrissent pas la vie. Elles sont bien au-delà de cela. À l'hôpital, je me suis plus ou moins débarrassée des micro-tracas de l'existence. J'ai relégué derrière la porte de ma chambre les pollutions contingentes qui d'habitude m'exaspèrent et que désormais je relativise. Depuis un mois, je n'ai pas été vraiment traversée par ces bouffées de pessimisme ou tout au moins de négativisme que nous connaissons tous dans la vie, hors de ces murs qui m'enferment. Je n'ai pas plongé dans un optimisme béat. Je suis circonspecte. Je sais désormais que la guérison n'est pas une simple formalité. Je sais qu'il est aussi possible pour moi de ne pas guérir. Mais je travaille à guérir. On verra bien. Depuis plus de 40 ans, je cherche des clés. Les clés de la sagesse, de la paix, de la joie. J'en ai pris l'habitude. Telle est devenue au fil du temps ma double vie. Le soir, je suis sur scène, je chante sous les lumières et au milieu du strass. Le jour, quand je ne suis pas immergée dans une tournée, dans une écriture d'album ou dans un enregistrement, je cultive mon jardin. Je me plonge dans les écrits de philosophes et des théologiens. Je dévore les textes des pères de l'Église et ceux des Grecs anciens. Cependant, depuis plus de 40 ans, je suis trop agitée et pour être dans le bonheur. Agitée de pensées, de sentiments, de troubles, de doutes, je ne suis pas un esprit zen. Je ne suis pas relaxe, mais au contraire, je suis d'un naturel assez ténébreux qui s'en fait pour un rien. À force de lecture, de débat, de discussion, je sais où est la sagesse, mais je ne l'ai pas encore trouvée. Je sais qu'elle réside au fond de nous, qu'elle est notre vraie nature, notre nature d'origine, qu'elle est donc indépendante des mouvements de la vie. Je sais qu'elle seule a le pouvoir de nous apporter l'apaisement. Dans un mois, je suis dans cette chambre d'hôpital. Curieusement, alors que le ciel est près de me tomber sur la tête, je n'ai jamais été aussi apaisée. Je n'ai jamais été aussi attentif à ce qui peut m'apaiser, en moi et en dehors de moi. Je ne suis pas encore un vieux sage, loin de là. Si j'ai repris mon cahier et mon stylo, je fais partie de la poignée d'irréductibles qui ont quelques difficultés avec les écrans et les claviers, c'est aussi pour essayer de comprendre, de mettre au clair mes idées, d'identifier ce qui fait que cette rechute, ce recancer, ne m'a pas brisée, mais qu'au contraire, il m'a grandi, j'ose le penser. De savoir pourquoi il m'aura fallu être à l'hôpital pour réaliser cela, alors que j'aurais pu le faire à tout moment de ma vie. Je n'écris pas pour donner des leçons, je n'ai rien à enseigner, je ne sais rien. J'écris pour comprendre ce qui vient d'éclairer mon chemin. J'écrirai tout ce que je ressens. Au fil de ces pages, dans ce cahier qu'il me reste à noircir, je ne transmettrai rien. C'est uniquement mon cœur que j'ouvrirai. Guérir parce qu'on y croit. Le fil s'est coupé en février 2013, quand j'ai eu l'annonce de mon premier cancer. Une annonce brutale. Depuis quelque temps, ma voix ne me suivait pas. Consultation de routine, une sonde dans la gorge, une phrase simple, directe, sans fioriture. J'ai une mauvaise nouvelle. Vous avez un cancer. Le médecin, un ORL, n'a pas tourné autour du pot.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissait quand elle nous embrassait. C'était bien chez Laurette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Laurette.
La vie m'était si précieuse malgré ses difficultés, malgré les difficultés que j'ai eues parfois à appréhender. Après tout, ma vie n'était pas en danger, du moins dans mon esprit, et c'est tant mieux. Si j'y avais pensé, cela aurait été difficilement supportable. Dès lors, le cancer a envahi totalement mon espace. Il a fallu que je m'occupe exclusivement de lui. Il n'y a pas eu d'alternative. J'ai tout arrêté d'un coup, tout ce qui n'était pas lui. Du jour au lendemain, par la force des choses, je n'ai plus revu mes musiciens. Je ne suis plus remontée sur scène. Sans doute cependant que c'est là qu'est ma place et que j'y reviendrai. Je me suis accrochée à la vie. C'est instinctif, presque animal. J'étais hospitalisée 3 semaines plus tard. Je n'ai jamais douté de ma guérison. Je ne me suis jamais dit que j'allais mourir. Je savais que j'étais dans un état grave, mais je savais tout autant que j'allais m'en sortir. Il me restait à choisir celui qui allait m'accompagner dans cette aventure. J'avais croisé la route du professeur Claude Méline dans ma vie d'avant, quand j'étais chanteur. Il s'occupait entre autres d'enfants malades du cancer et il m'avait sollicité, ainsi qu'une poignée d'artistes et de sportifs pour égayer une de leurs après-midi à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Il était chaleureux. J'avais été émue en le voyant, lui le mandarin aux petits soins pour ses gamins. Je me suis spontanément tournée vers cet homme. Je sentais qu'il avait la petite étoile au-dessus de lui, la baraka, et qu'il allait me la transmettre. En sa présence, j'avais l'impression d'être en sécurité. Je connaissais ses compétences. J'ai été séduit par son optimisme. Avec ce partenaire de voyage, j'ai senti que je ferais un bon périple. Notre team serait gagnante. Aujourd'hui, dans ma rechute, c'est lui qui continue de m'accompagner. Il a beaucoup été dit et écrit sur l'effet placebo qui participe de toute guérison, même dans les traitements les plus courants. De récentes études menées en Australie par de très sérieuses équipes scientifiques ont même prouvé qu'il augmente l'effet des antibiotiques pour combattre des bactéries. Ça marche mieux si on y croit et si on est persuadé que le prescripteur en général, le médecin, connaît son métier et qu'il est confiant dans le succès du traitement. Le placebo, ce n'est donc pas seulement la poudre de perlimpinpin ou la boule de sucre de charlatan, ce n'est pas que du mensonge. Dans l'effet placebo, tout joue. L'espoir du malade et la force de conviction de son médecin, l'optimisme qu'il insuffle, l'envie de guérir et la certitude que ce traitement-là nous y aidera. Évidemment, le placebo n'est pas la panacée. Il ne remplacera jamais les traitements médicaux, mais le climat qu'il crée rend, je le pense, et bien des études l'ont démontré, les traitements plus efficaces. Du moment que j'ai rencontré le professeur qui allait me soigner, j'ai su qu'on allait gagner. Placebo, après tout, pourquoi pas? De fait, nous avons remporté haut la main la première manche. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais j'ai la modestie de croire dans le pouvoir de l'esprit. On peut l'appeler vibration ou pensée positive, qu'importe le nom. Ce pouvoir-là est à mon avis tout à fait naturel, mais d'un naturel qui se situe à un niveau encore inconnu de nous, que nous n'avons pas encore exploité. Le fait est qu'à l'époque de ma première hospitalisation, si j'étais sûre de guérir, par contre j'étais dans une totale ignorance de ce qui m'attendait. Heureusement. En réalité, ce n'est pas l'hôpital que j'ai souffert. Ce n'est pas là que j'ai douté. J'étais amaigrie, lestée d'une quinzaine de kilos, enchaînée par des perfusions de toutes sortes. La chimio trouvait sa voie dans mon corps et moi je discutais de l'avenir, comme si de rien n'était, avec les copains qui se relayaient nombreux à mon chevet. Je n'avais pas réalisé que j'avais autant d'amis. Dans le tourbillon de la vie du dehors, la vie quotidienne, nous ne trouvons jamais le temps de nous arrêter pour voir ceux qui nous sont chers. Nous promettons de les appeler. Les mois, puis les années passent, les liens se distendent. C'est quand ça ne va pas que l'essentiel ressurgit. Et l'amitié fait ô combien partie de l'essentiel. La maladie devint ainsi pour moi un mauvais moment à passer sans plus. En réalité, depuis le début de ma maladie, je n'ai pas eu, moi, aucune colère, aucun regret, aucune aigreur à l'encontre de ce mal. Aucune impatience non plus, au contraire. Le cancer est l'une de ces épreuves qui vous apprennent la patience. Vous pouvez fulminer, vous pouvez vous morfondre, crier, pleurer. Cela ne changera rien à ce qui est. Et cela, je l'ai compris d'instinct. J'ai donc laissé passer le temps. J'ai fait ce qu'il y avait à faire, sur le moment, sur l'instant. Je réalise aujourd'hui que l'hôpital ne me déplaît pas. Évidemment, je préférais être en bonne santé sur une scène et chanter. Une fois que je l'ai dit et assumé, à quoi serviraient des lamentations et des ressassements, sinon à me faire encore plus de mal? J'ai donc vécu de ma manière très cool cette première phase de ma thérapie. J'étais physiquement et psychologiquement soutenue par la bienveillance qui m'entourait et par l'amour qui m'a été donné. L'amour de la femme de ma vie, de mes enfants, des autres, l'amour de mes amis, de personnes que je ne connaissais absolument pas sous cet angle affectif et qui se sont manifestées avec des brassées de sentiments. La tendresse, la compétence du personnel infirmier qui prend 1000 précautions pour éviter à celui ou celle qu'il soigne toute gêne ou douleur inutile. Ils sont formidables. Aujourd'hui, je suis à nouveau dans mon lit d'hôpital et à nouveau délivré des contingences qui nous absorbent dans la vraie vie, qui nous empêchent bien souvent de penser à l'essentiel. Je peux ressentir de manière très tangible l'effet de cette bienveillance, de cet amour sur mon corps. J'ose penser que l'on guérit plus vite quand on aime et que l'on est aimé. Une autre personne savait ce qui était bon pour moi. Ma femme. Dès que le diagnostic de mon cancer a été établi, de nouveaux livres ont garni nos étagères. Toutes sortes d'ouvrages dédiés à la nutrition. Ces deux chevaux de bataille ont été le soja et le curcuma. Elle m'en a fait avaler des tonnes. Avant ma première hospitalisation, je mangeais volontiers les mets les plus énergétiques pour me constituer une petite réserve. À ma sortie de l'hôpital, je n'avais plus goût pour aucune nourriture et même l'eau me dégoûtait. Soja et curcuma sont donc retournés dans leur placard et moi qui étais un gourmand invétéré, je ne me suis plus jamais réveillée la nuit pour grignoter dans le réfrigérateur. Je n'ai même plus envie d'une bonne entrecôte et je ne suis pas sûre que je saurais apprécier un repas à une table étoilée, c'est dire. Après tout, cela fait aujourd'hui plus de 2 ans que je ne me suis pas offert un grand repas et je suis quand même debout, légèrement frustrée, mais qu'importe, la vie continue.
Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi, mon Père. Voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière. Chère Sarah, ouvre tes bras, j'arrive. Tu penses à moi, prépare-moi.
Du foot et autres plaisirs. Depuis que je suis retournée à l'hôpital, j'ai décidé de prendre la vie du bon côté. Et quand je tournerai la page de la maladie, j'y mordrai à pleines dents. J'en suis pour l'heure incapable, mais il y a plein de petites choses qui restent à m'apporter. D'abord, l'environnement n'est pas détestable. L'établissement est même assez coquet. Et j'ai fini par me convaincre qu'un hôpital est un lieu très positif, où les gens renaissent, en dépit de quelques erreurs de parcours et parfois de décès. Mais après tout, on vient ici pour se soigner, pas forcément pour mourir. Évidemment, il y a des moments moins sympathiques, d'autres que je continue à appréhender inutilement. Par exemple, le sang. Je ne peux pas supporter d'en voir une goutte, a fortiori, quand c'est le mien. Je l'ai annoncé d'emblée, et depuis tout a été fait pour que je n'en voie jamais. Mon autre angoisse était l'un des effets secondaires de la chimiothérapie. Elle a des tas d'effets secondaires dont j'ignorais tout, mais beaucoup sont heureusement allégés par des contre-prescriptions. En revanche, l'idée de me réveiller avec des cheveux sur l'oreiller, de perdre ainsi des lambeaux de moi, ne me plaisait pas trop. J'ai donc décidé de me faire raser le crâne. J'ai déjà eu les cheveux longs, courts, presque rasés, mais cette fois c'était autre chose. Finalement, l'affaire s'est conclue rapidement, beaucoup plus rapidement qu'une visite chez le coiffeur. J'étais dans l'expectative du résultat. J'imaginais le pire, mais je ne me trouve pas si mal ainsi. De toute manière, ce n'est pas très grave. Mes cheveux repousseront. Malgré les petits aléas et les gestes médicaux qui ne sont pas forcément douloureux, mais pas pour autant agréables, j'ai un programme confortable, assez rempli. Il y a toujours quelque chose à faire. Je ne m'ennuie pas vraiment. Je passe même quelques moments très charmants. Le tout est d'apprendre à les repérer, à s'en satisfaire, au lieu de perdre son temps à maudire son sort et à se morfondre inutilement. Car malgré tout, je ne l'oublie pas, je suis clouée sur un lit d'hôpital, loin de chez moi, et je serai mille fois plus confortablement installée dans ma chambre, dans mon lit. J'ai résolu ce problème de manière radicale. Je me suis mis mentalement en dehors du contexte de mon appartement, de mon quotidien. Je ne vis pas dans la nostalgie du monde extérieur, et passé les deux premiers jours, j'ai cessé de regarder par la fenêtre qui donne sur la rue en me lamentant. Ah, si seulement j'étais dehors. Et puis dehors, il pleut, il fait froid. Je ne sais pas si cela s'appelle vivre l'instant présent, mais de fait, pour capter les moments agréables dans le contexte hospitalier, j'ouvre mes antennes et je me consacre à ce qui se passe ici, autour de moi. L'insolite, le singulier, l'aimable, plutôt que la morne routine et le détestable, même s'ils existent aussi. Je ne voudrais pas donner l'impression de planer au-dessus des contingences, mais telle est ma vérité. En guise de réveil matin, j'ai droit tous les jours à un léger courant d'air, ma foi fort agréable, qui précède les tintements de chariots chargés du matériel médical. Je ne pense pas que le sourire de l'infirmière de service me soit exclusivement réservé, même s'il est possible que la notoriété du chanteur qu'elle connaisse m'attire quelques minuscules faveurs, à commencer par celle de ce sourire. De fait, comme beaucoup de ceux qui sont régulièrement passés en prime time à la télévision, je fais un petit peu partie de la vie de tout le monde. J'ai accompagné la vie de tout le monde. Je suis une vieille connaissance que l'on a suivie au fil des ans, certains me disent un confident, ou même un ami. L'idée ne me déplaît pas, et je lis non sans plaisir les lettres intimes que certains m'envoient. L'enfant gâté que je suis parfois se laisse dorloter. Prise de température, de la tension, vérification de l'oxygénation, on me chouchoute et ça recommence tous les 4 heures. Et puis il y a le moment le plus glorieux, quand l'infirmière, sa petite barquette entre les mains, me nomme les gélules et comprimés qu'elle me tend l'un après l'autre, avec autant d'emphase que s'il s'agissait du menu d'un restaurant multi-étoilé. Je fais semblant d'y croire, et j'en suis toujours aussi charmée. Peut-être est-ce mon âme d'enfant qui ressurgit. Certains plaisirs me manquent, je fais en sorte d'éviter d'y penser. Les plaisirs de la table, par exemple, qui me sont interdits. Il y a une telle guerre au fond de ma gorge que toute intrusion supplémentaire serait pour moi un cauchemar. J'ai souffert les premiers temps, devant les plateaux repas de l'hôpital que j'étais incapable d'ingérer. J'en ai laissé quelques-uns, incapables de les toucher. La nourriture m'a pourri la vie. Et puis l'idée a surgi. Pourquoi pas une sonde pour m'alimenter? Je me suis habituée à sa petite musique. Elle rythme mes journées. Oserais-je avouer qu'elle est presque devenue une amie? À l'hôpital, je ne mange pas. Mais je me promène. Pour me dégourdir les jambes, j'effectue 5 ou 6 fois le tour du pâté de chambre. Comme dans ma vie ordinaire, je n'ai pas d'horaire précis pour me balader. J'écoute mes envies. J'évite ainsi, du moins, autant que je le peux, de transformer la promenade en rituel ennuyeux sans surprise. Les rituels ne font pas partie de mon existence. Ils m'angoissent. Et puis, en ne me promenant pas tous les jours à la même heure, j'essaye tentative de, je le reconnais, dérisoire, de mettre un peu de piment dans mon existence d'hospitalisée. En marchant tout doucement, je croise d'autres malades, debout sur le pas de leur porte, le regard dans le vague. Ils sont habillés, je le suis aussi. J'ai un cancer, eux aussi. Ils attendent je ne sais quoi. Nous nous saluons, d'un imperceptible mouvement de tête. Je poursuis ma route. Je passe, je repasse. Les mêmes sont là, ils n'ont pas bougé, presque statufiés. À quoi pensent-ils? Que font-ils? J'ai parfois envie de les entraîner dans mon mouvement, mais je poursuis mon chemin sans m'arrêter. Je glisse par curiosité un coup d'œil rapide dans les chambres. La plupart sont grandes, plus grandes que la mienne. Mais elles n'ont pas le charme de celle qui m'a été dévolue. Celle-là, j'ai appris à l'habituer, à l'apprivoiser. Contrairement à mes habitudes, quand je m'installe quelque part, que ce soit dans une maison ou une table de café, je n'ai pas tourné, je n'ai pas hésité pour la choisir. Je n'ai pas cherché à capter ses ondes, à l'écouter. C'est elle qui m'a choisi. Et après ma promenade, je suis content de rentrer chez moi.
Encore afin qu'on soit tranquille. Dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles. Et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup.
Car ce cancer l'a transformé. Michel Delpech, qui, admet-il, n'avait jamais été un joyeux de rire, redécouvre la beauté de la vie, l'amour, les petits plaisirs, l'écoute de soi sont ses nouvelles armes. Un témoignage éblouissant de force et de franchise. Merci, chers auditeurs, d'être à notre écoute. Merci, à bientôt.